Fréquence protestante, le Midi Magazine, Emmanuel Taïeb.
Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver en direct pour ce Midi Magazine. L'émission d'aujourd'hui a pour titre le conspirationnisme 2.0. Et mes invités sont Raphaël Jossé et Rudy Reichstadt. Le conspirationnisme est à la mode. Il ne se passe pas une journée sans que les réseaux sociaux ne proposent une interprétation complotiste des événements du moment. Récemment, le célèbre basketteur Shaquille O'Neal se faisait l'écho des théories fumeuses de la Terre plate en signalant que quand il traverse les États-Unis, il voit bien que la route est plate et donc la Terre n'est pas sphérique. Bon, il a depuis déclaré que tout cela était une plaisanterie, mais les théories dites platistes ont connu grâce à lui un large écho. D'autres théories du complot connaissent une fortune ininterrompue, le complot juif et les protocoles des sages de Sion, le complot des élites ou des banquiers, le complot des Illuminati qui rencontre un succès étonnant chez les jeunes et dans la culture populaire, le complot des agences internationales pour dominer le monde ou encore le complot des gouvernements qui organisent des attentats sur leur propre territoire pour faire porter le chapeau à la minorité musulmane dans sa version radicalisée. Cet imaginaire du complot est désormais très balisé et de nombreux travaux de diverses disciplines universitaires l'ont bien cerné, notamment dans sa dimension politique. Car les idées complotistes ne sont pas simplement des récits fantaisistes ou étranges, elles sont avant tout des discours politiques et idéologiques qui proposent une vision toute faite du monde et qui entendent peser sur le jeu politique national. Il y a donc un militantisme complotiste qui utilise les médias numériques pour concurrencer l'information professionnelle et pour gagner chaque jour de nouveaux adeptes. Au milieu de la désinformation et des fake news qui abondent sur les réseaux sociaux, le conspirationnisme a su renouveler sa petite musique pessimiste pour devenir un phénomène 2.0 à part entière. Bonjour Raphaël Jossé.
Bonjour.
Raphaël Jossé, vous êtes docteur en sociologie de l'Université Paris-Descartes et chercheur au Centre d'études sur l'actuel et le quotidien. Vous êtes spécialiste des mutations socio-anthropologiques des sociétés et vous avez publié récemment chez Le Mieux Éditeur un ouvrage intitulé « Complosphère, l'esprit conspirationniste à l'ère des réseaux ». Bonjour Rudy Reichstadt.
Bonjour.
Rudy Reichstadt, vous animez depuis bientôt 10 ans l'Observatoire du conspirationnisme, Conspiracy Watch, qui est un site en train de se refaire, vous êtes en train de le refondre, mais c'est un site web très riche sur les théories du complot, avec de nombreux articles de divers contributeurs, et site qui s'est imposé comme un outil incontournable de veille engagée et d'analyse du phénomène complotiste. Alors je voudrais qu'on commence par, alors peut-être pas une définition, mais en tout cas essayer d'approcher un peu ce phénomène conspirationniste, complotiste, ou ce phénomène des théories du complot. On le définit habituellement comme l'idée ou la croyance que le cours des événements est nécessairement voulu par des gens, par un groupe caché d'hommes qui tirent les ficelles. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour cerner un peu mieux ce phénomène? Est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce de contre-récit systématique des événements, des contre-propositions, la proposition d'une autre réalité? Comment est-ce qu'on peut approcher de ce phénomène? Raphaël?
Oui.
Raphaël Jossé.
Pour ma part, je l'ai abordé par rapport à l'imaginaire du grand complot mondial. C'est quelque chose de vrai, une vision très particulière. Donc je m'arrête pas sur l'idée du il y a du complot, il y a pas de complot, des choses comme ça. Il y a forcément du complot dans le monde. Ça aussi, il faut le.
Oui, les complots existent.
Il faut le mettre en avant. Il faut en parler. Donc là, on traite. En tout cas, moi, je traite particulièrement quand on traite du conspirationnisme, on traite de cette idée qu'il y a un groupe en particulier qui tire les ficelles au niveau mondial et qui et tous les événements, tout ce qui arrive dans le monde est le fruit d'une planification de ces gens-là. Voilà. Donc selon les acteurs de cette mouvance, les responsables ont différents noms. Chacun va adopter soit les extraterrestres, soit les Illuminati, comme vous l'avez dit, les formations, etc. Voilà. Donc effectivement, ce sont des contre-propositions aussi. Ce sont d'autres visions du monde, ce sont d'autres vérités finalement qui se confrontent à d'autres visions du monde. Mais voilà. Donc là, c'est une vision conspirationniste. Tout s'explique par le complot, par un complot. Par un plan, mais c'est une vision très particulière.
Mais ce qui vous a intéressé, vous, Raphaël Jossé, c'était de dire il y a un imaginaire du complot qui se déploie régulièrement et qui est un imaginaire d'explication, d'accusation. Mais ce qui vous a intéressé, c'est au fond la manière dont cet imaginaire est constitué, c'est-à-dire à quel type de vision du monde il renvoie.
Oui, voilà. Donc moi, ce qui m'a intéressé en particulier là, c'est pas justement de polémiquer sur les faits, à savoir si c'est telle chose est bien arrivée ou pas, s'il y a réellement telle chose derrière, cachée, ceci, cela, si un tel existe et tout, parce que là on n'en finit plus, on perd notre temps à vouloir essayer de convaincre par des arguments logiques et rationnels des gens qui de toute façon ne veulent pas le savoir, ne veulent pas entendre forcément ces choses-là. Donc il y a des choses qui arrivent dans le monde, voilà. Mais moi, c'est pas ce qui m'a intéressé. Effectivement, ce qui m'a intéressé, moi, c'est le schéma de pensée. C'est ce qui revient systématiquement, c'est la structure de représentation qui se dégage systématiquement dans ce mode de représentation des choses. Donc voilà, c'est toujours cette idée qu'il y a le bien et le mal qui s'affrontent, qu'il y a un petit groupe de gens, donc voilà, qui sont dans l'ombre, dans les ténèbres, et donc ce sont les forces du mal, quoi. Donc là, on a une espèce de retour à une pensée théologique, pour le coup, mais une théologie dont j'essaie de faire un petit peu la généalogie dans le livre, qui remonte peut-être au fondement du dualisme dans la sphère indo-européenne, autour du mazdéisme indo-iranien, bon, voilà, et donc après, ça se décline dans toute la pensée dualiste de l'Occident, toute la métaphysique occidentale tourne autour de ça, et donc, bon, ça a structuré quand même nos représentations, nos comportements, voilà. Donc, chez les conspirationnistes, c'est très tranché, hein, c'est très, comme on dit, manichéen, donc il faudrait parler de manie, ou je sais pas, mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais simplement, cette idée d'opposition entre le bien et le mal, qu'il y a deux pôles qui s'affrontent, et que là, c'est forcément les forces du mal cachées dans l'ombre, voilà. Donc, c'est toujours ça qui revient. Donc, moi, je parle de Gilbert Durand, je parle de ces structures anthropologiques
de l'imaginaire, voilà, anthropologie de l'imaginaire.
Les structures anthropologiques de l'imaginaire, qui a mis en avant ces deux régimes de l'imaginaire dans la représentation de la conscience, où il parle du régime diurne et du régime nocturne de la représentation et de l'imaginaire. Et bon, voilà, donc après, on peut en reparler un petit peu plus tard. Et donc, ce qui domine effectivement dans la pensée conspirationniste et qui a longtemps dominé aussi de manière générale en Occident, c'est le régime diurne. C'est l'idée du héros solaire qui représente la lumière, qui va combattre les forces ténébreuses du mal tapis dans l'ombre. Voilà. Et donc ça peut représenter plein de choses. On retrouve ça dans un tas de mythologies sur la planète.
Donc réactivation, Rudi Reichstadt, de ce dualisme entre le bien et le mal. Le conspirationnisme fonctionne aussi dans une désignation d'un mal qu'on ne verrait pas, dans une désignation de l'ennemi, et c'est peut-être ce qui le rend à la fois fort et un peu inquiétant quand on travaille dessus, cette accusation. Le conspirationnisme est une accusation.
C'est une accusation, et c'est en ça que c'est un discours préoccupant d'ailleurs. Léon Poliakov parlait de causalité diabolique, par exemple. Et oui, on retrouve ces structures simplificatrices, manichéennes, effectivement, le bien, le mal, dans le discours conspirationniste. C'est dire aussi qu'il a partie liée, ce discours, avec une forme de paresse intellectuelle. Parce qu'évidemment, le monde est plus complexe que la manière dont les complotistes se le représentent. Mais là où Raphaël Josset a eu raison de rappeler au début de son propos qu'il y a des complots, bien sûr, il y a des complots, et c'est important de dissiper ce malentendu, parce que c'est un malentendu qui est présent à chaque fois que on entreprend en fait de critiquer ce phénomène-là et ces thèses conspirationnistes. On s'entend répondre à peu près systématiquement, mais alors pour vous, les complots n'existent pas ? Non, évidemment que non. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les complots imaginaires, les croyances erronées ou extravagantes dans des complots imaginaires. Et évidemment qu'à côté de ça, l'histoire est faite aussi, bien entendu, de complots. Il y a des complots, il y en aura encore, tant qu'il y aura des sociétés humaines, du secret, de la politique en général. Mais dire que l'histoire est faite de complots ne doit pas occulter le fait que l'histoire est faite aussi de croyances complotistes, de croyances en tout genre, de mythes, mais aussi de mythes complotistes, et que ces mythes complotistes, parfois, ils ont eu des conséquences, et même plus souvent qu'à leur tour, des conséquences absolument funestes. Et je parle là du complotisme en tant que discours qui vient accompagner un passage à l'acte violent, un process de persécution, voire un passage à l'acte criminel, génocidaire. On sait que le complotisme anti-juif ou anti-tutsi, par exemple, ont préparé des génocides, littéralement, qu'aujourd'hui, le complotisme est essentiel, est au cœur de l'idéologie djihadiste qui motive le passage à l'acte terroriste. Et d'ailleurs, il est même utilisé, ce complotisme, pour recruter, d'ailleurs, pour faire des recrues et inciter les gens à partir en Syrie, faire le djihad. Donc voilà, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas juste des petites histoires drôles. Maintenant, sur la définition du conspirationnisme, il y a à peu près autant de définitions que d'auteurs hein, sur le sujet. Moi, en général, je l'aborde, on peut l'aborder évidemment comme une forme termes de contre-culture. Moi, en général, je l'aborde sous la forme d'un discours, sans exclusive, parce que c'est un discours qui est très, comment dire, très plastique, qui peut être mis au service d'idéologies politiques tout à fait opposées, tout à fait rivales. C'est pour ça, d'ailleurs, que même s'il y a des liens très forts, historiquement, entre antisémitisme et conspirationnisme, tout conspirationnisme n'est pas par définition antisémite. Il y a même un conspirationnisme, si vous voulez, si vous prenez dans la droite la plus extrême israélienne, par exemple, vous avez un conspirationnisme qui n'a rien d'antisémite, mais qui, par exemple, va expliquer que Yitzhak Rabin a été assassiné par Shimon Peres. Ce sont des thèses qui ont cours en Israël, en tout cas dans une frange extrême droite, religieuse, très, très marquée. Donc voilà, c'est dire que personne n'a l'exclusivité du conspirationnisme.
Raphaël Jossé, sur la question de la mise en accusation, vous indiquez dans votre ouvrage qu'il y a un potentiel totalitaire des théories du complot, qu'elles peuvent se transformer en une espèce de procès en sorcellerie. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que dans cette vision du monde, il y a des catégorisations et qu'on va catégoriser un certain nombre de groupes, d'acteurs, d'institutions du mauvais côté de la barrière. C'est ça l'idée ?
Mm-hmm. Oui, bah c'est la logique du bouc émissaire. Hein. Donc on va désigner tel ou tel groupe social ou personne responsable de tous les malheurs du monde. Hein. Donc voilà, donc on va désigner ce qui est passé dans le langage populaire comme le bouc émissaire, ce qui était une pratique antique où voilà, donc on s'est déchargé du mal en sacrifiant un bouc et voilà. Et là c'est un peu la même chose. Donc désigner l'ennemi comme ça qui risque en plus d'être un ennemi imaginaire. En tout cas, on rend responsable des gens de choses où ils sont pas forcément responsables, et on veut forcément s'en débarrasser, quoi. Donc tout ça peut amener éventuellement justement à des logiques génocidaires où on va essayer d'éradiquer le mal en exterminant les gens, quoi. C'est ça le danger, parce que bon, sinon on s'y intéresserait pas. Ça peut amener à ça éventuellement. Ah, hein, oui. Donc c'est pas juste pour discuter de cette chose-là. C'est pas juste distrayant. Ça peut l'être par ailleurs. Hein, des fois, c'est assez drôle, mais non. Ça peut être aussi assez dangereux, quoi. Donc ça file une mauvaise pente. Le problème de ça, c'est que là, on voit bien dans une espèce de logique inquisitoriale. Donc on va chercher les déviants, les hérétiques, ceux qui sont pas dans la norme. Et donc éventuellement, oui, c'est la chasse aux sorcières, quoi. Donc voilà, ceux qui sont les suppôts de Satan, comme il y a eu les grandes chasses aux sorcières par le passé. Mais le problème, justement, c'est que nous-mêmes, quand on traite de ce problème-là, il ne faut pas qu'on tombe dans la même logique. Hein, parce que dès qu'on commence à désigner les gens, oui, toi, t'es conspirationniste, ceci, cela, le problème, c'est ça, c'est comment on traite de ça sans tomber dans le même processus, oui. En stigmatisant les gens comme ça, en collant une étiquette sur le front, et en mettant en avant une espèce de nébuleuse. Donc c'est voilà, c'est ce que j'ai voulu, moi, en tout cas, c'était mon approche au départ, c'est ce que j'ai voulu faire.
Oui.
Oui, et je crois qu'à ce stade, c'est important de distinguer entre différents. Enfin, dans ce qu'on entend derrière le mot conspirationniste. C'est quoi un conspirationniste ? Ça peut être plusieurs choses en réalité. Ça peut être un théoricien du complot, un désinformateur professionnel, comme il en existe sur le marché, enfin sur Internet, qui peut générer un véritable business avec ça. Alex Jones aux États-Unis, qui est un peu le pape du conspirationnisme américain, son chiffre d'affaires annuel est estimé à plus de 10 millions de dollars par an. C'est considérable. Alain Soral, qui est quelqu'un qui se revendique du national-socialisme, qui a été condamné plusieurs fois pour antisémitisme et qui fait un usage abusif et répété et récurrent de la théorie du complot, revendique une trentaine de salariés. Donc il y a un vrai business du complotisme, même si je pense fondamentalement que le motif est avant tout idéologico-politique. Mais évidemment qu'on ne peut pas mettre dans le même sac des désinformateurs professionnels comme ces gens-là, et puis des gens qui sont séduits par ces discours-là, et pour qui rien n'est jamais forcément joué. C'est-à-dire qu'on peut toujours ramener vers plus de raisons en essayant de les exposer aussi à des contrepoints critiques de ces théories du complot et de ces choses-là. Si les gens ne sont pas de mauvaise foi, après tout, on peut très bien être intoxiqué par ces contenus-là et puis revenir vers peut-être plus de raisons face à des arguments. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est très important, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, il est important de répondre aux arguments complotistes. Pas à tous, mais en tout cas à ceux qui sont les plus influents, les plus présents sur le marché cognitif, pour parler comme Gérald Bronner, parce que être ébranlé par un argument complotiste, ça n'a rien d'illégitime. Je veux dire, ça arrive à chacun de nous.
Ça envoie du doute, finalement, au
bien
départ.
Bien sûr. Mais là où, je crois, la responsabilité, enfin, là où les journalistes, en général, et la société civile a une responsabilité, c'est qu'à un moment, il faut aussi essayer de répondre à ces arguments, les critiquer, les démonter, et puis faire la part des choses entre le vrai, le faux, l'invérifiable.
Voilà. On disait tout à l'heure, les gens qui travaillent sur le complotisme ne nient pas l'existence des complots. Ce qui les intéresse, au fond, c'est le « isme ». Donc, à côté du business dont vous avez parlé, on peut aussi parler de David Irving sur le business là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est justement peut-être cette dimension politique ou idéologique, c'est-à-dire qu'il y a, du point de vue de ceux qui produisent ces théories, donc qui sont les désinformateurs ou les agitateurs, il y a une vraie volonté d'occuper un terrain idéologique dont l'un des leviers est le discours conspirationniste, parce que ça, c'est un discours un peu inquiétant qui marche. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même cette dimension très fortement politique et idéologique ?
Mais bien sûr, elle est même essentielle. Richard Hofstetter, qui est l'un des pionniers de la réflexion sur le sujet, parlait de style paranoïaque, qui ne parlait pas encore de conspirationnisme dans les années 60, soulignait bien qu'il y a une différence fondamentale entre la paranoïa clinique, qui relève de la psychopathologie, et le style paranoïaque, le conspirationnisme, qui est une forme de paranoïa politique. Donc oui, évidemment, il faut repolitiser, pour parler comme vous, Emmanuel Taïeb, ces choses-là. Il faut d'autant plus le faire qu'on sait aujourd'hui, grâce à la psychologie sociale notamment, c'est très net, qu'il y a un lien, une corrélation entre adhésion à des théories du complot et extrémisme politique, et choix de l'extrémisme. C'est assez clair. Et alors pourquoi ? Parce que, et déjà, Hofstetter l'expliquait, lorsqu'on vous raconte matin, midi et soir que vos représentants démocratiquement élus sont en réalité des pantins à la solde de puissances obscures, qu'en réalité la démocratie est un vaste théâtre d'ombre et que les choses se décident ailleurs, eh bien vous en êtes fatalement, logiquement, conduit à remettre en cause la validité même du système qui produit ça, et donc de la démocratie libérale, de la société ouverte. Voilà. Et donc, cette affinité élective qu'il peut y avoir entre l'extrémisme, la radicalité politique, d'une part, le conspirationnisme de l'autre, me paraît importante, évidemment, à souligner. Ouais.
J'ai parlé de David Irving, je voulais parler de David Icke et des reptiliens. Raphaël Jossé, sur cette question cette vision d'un pouvoir derrière le pouvoir, d'un vrai pouvoir qui tirerait les ficelles derrière le pouvoir démocratique, c'est ça le régime nocturne, c'est cet imaginaire-là qui est activé dans finalement une forme de réenchantement du monde, mais un réenchantement négatif, un réenchantement pessimiste.
C'est ça, c'est une espèce de réenchantement négatif, effectivement. Et donc, ce qui met en avant le fait qu'on est quand même confronté à un désenchantement du monde, une démagification, comme disait Max Weber, un sociologue allemand, Max Weber. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter aussi. Alors, moi, c'était aussi un des leitmotivs et une des problématiques de mon livre. C'est finalement de penser le conspirationnisme par ce biais-là et de me poser la question de quoi le conspirationnisme est-il le signe ? C'est un symptôme, il y a ça qui émerge, c'est une espèce de tendance lourde comme ça, on voit que c'est bien que ça a monté en puissance depuis le début du XXIe siècle. Et ça devient quelque chose de complètement viral qui contamine tous les esprits. Bon, alors après, ça pourrait être un mouvement de pensée comme un autre, mais qu'est-ce qui fait que là, il y a une tendance qu'on peut directement très bien observer, et voilà, donc de quoi c'est le signe, en fait ? Qu'est-ce que ça montre ? Voilà, mais pour moi, c'est le signe d'une mutation, c'est le signe de quand même, c'est un symptôme de quelque chose, bon, voilà, donc, mais de quoi ? De quoi exactement, quoi ? Donc voilà, donc on voit bien qu'avec avec ça, on cherche à retrouver une explication, un sens du monde, un sens à la vie, en général, donc c'est le retour d'un grand récit, voilà. Je pense que dans cet imaginaire conspirationniste dont on a oublié de dire qu'il est fondamentalement apocalyptique, hein, il reprend les grands schèmes des récits apocalyptiques tels qu'on le trouve même dans la Bible, et généralement c'est quelque chose qui est mis en avant. Hein, c'est Norman Cohen qui parlait des fanatiques de l'apocalypse, en tout cas dans la traduction française de son livre sur les mouvements millénaristes au Moyen-Âge. Il lui-même après a écrit sur le mythe du complot juif et la redécouverte des protocoles des sages de Sion, et toute cette enquête qu'il y a eu pour montrer que c'était un faux, etc. etc. Bon, en tout cas, il y a une corrélation entre la pensée apocalyptique et la pensée conspirationniste. Et donc, Voilà, pour moi, c'est aussi le signe d'une espèce de crise existentielle et spirituelle, une crise de civilisation qui est très profonde. Et ça, c'est une manière d'y remédier, comme il y a plein d'autres choses aussi qui émergent pour essayer de remédier à cette crise-là, à cet effondrement de la présence, comme disait l'anthropologue italien Ernesto De Martino, dont je parle un petit peu dans le livre. Et là, ça me paraît quelque chose de fondamental, ça, c'était cette question de la présence à soi, aux autres, au monde qui s'effondre. On est dans quelque chose où maintenant on est de plus en plus dans un monde de plus en plus spectral, fantomatique, de plus en plus virtuel, de plus en plus dans l'ère de la simulation à la Baudrillard, hein, et donc c'est peut-être ça aussi, ce monde fantomatique dont parlait par ailleurs Günther Anders, aussi le philosophe allemand Günther Anders. Il y avait des réflexions très intéressantes par rapport à ça, en parlant justement de la radio, de la télévision, des médias, et il disait que le monde devenait de plus en plus fantomatique, quoi. Donc, qu'il y avait une espèce de présence, comme nous, nos voix vont être présentes un petit peu partout, mais en même temps, c'est une absence, et c'est fantomatique, parce que, voilà, on n'est pas vraiment là physiquement, mais il y a quand même une présence qui est, voilà, donc il y a cette espèce de spectre, et le monde devient comme ça, finalement, et donc on peut toujours imaginer des choses comme ça, il y a cette idée du spectre qui hante le monde. Et. Voilà, alors ça remagifie, ça réenchante un petit peu, mais c'est pas merveilleux, c'est un peu glauque, c'est un peu triste,
c'est
crispé,
c'est inquiétant,
c'est dans l'angoisse, ça montre une angoisse existentielle, c'est quelque chose qui.
Mais est-ce que c'est lié aussi au fait que finalement dans ce qu'on a appelé le désenchantement du monde, le discours scientifique auquel les systèmes occidentaux démocratiques etc sont très attachés, ce discours scientifique a été incapable de prendre en charge, les destinées individuelles ou la demande de spiritualité. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là, Raphaël Jossé ? L'idée qu'au fond, la science n'a pas été capable de remplir le vide laissé par le désenchantement du monde.
Ce que disait Max Weber, de toute façon, bon, l'avènement du rationalisme, de la rationalité, a désenchanté le monde. Voilà, donc c'est pas dur à comprendre. Donc l'avènement de la science, donc ça fait progresser des choses, c'est sûr, mais ça détruit d'autres choses. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le désenchantement. C'est la crise des valeurs et le déclin des idées religieuses. Des croyances, voilà, et donc du sacré, de la spiritualité, voilà, donc on arrive dans un monde purement de causalité, mécanique, matériel, voilà, donc c'est toute opposition entre matérialisme et spiritualité. Et donc, voilà, on est dans l'avènement de cette espèce d'ère du vide et de la science, qui peut être aussi un nouveau récit à un moment donné, qui s'est proposé de devenir quelque part une espèce de nouveau récit.
Marque ses limites, finalement, en tout cas.
Voilà, ne suffit pas à apporter suffisamment d'enthousiasme, en tout cas, pour qu'il y ait une espèce de quelque chose qui se structure autour de ça. Mais d'autant plus que c'est pas tellement la science en elle-même, son récit, son discours, ça pourrait fonctionner, mais c'est ces applications technologiques qui ont bouleversé nos rapports au monde, à l'espace, et qui constamment produisent de la mutation, donc de l'impermanence, de la précarité, de l'instabilité, et tout le temps, on est confronté tout le temps à des choses qui changent nos vies, et c'est difficile à vivre. Voilà, donc ça crée du mal-être.
On dira un mot tout à l'heure, d'ailleurs, des technologies dans leurs usages par le conspirationnisme. Vous diriez, peut-être, vous liriez.
Oui, non, on est vraiment dans un âge post-positiviste, c'est-à-dire que la l'idée selon laquelle la science allait tout régler, qui est très 19e-iste, quoi, elle est morte et enterrée. C'est-à-dire que le 20e siècle, ça a été le moment de la rupture de confiance avec les promesses de la science, parce que ça a été Hiroshima, parce que ça a été Tchernobyl aussi. Il faut bien avoir à l'esprit que parmi les trois grandes instances d'autorité, les trois grandes paroles d'autorité aujourd'hui contestées, notamment à travers le conspirationnisme, il y a la parole politique, hein, de l'État en général, mais politique en général, la parole des médias, hein, la presse, et puis la parole scientifique. La science est vraiment mise à mal à travers le complotisme. On remet en doute des faits scientifiques comme la conquête de l'espace, enfin la Lune, quoi. Hein, le fait qu'on a posé.
Je parlais de la Terre ronde au début d'émission.
Le platisme, qui quand même. Et puis, on remet en cause aussi la question du réchauffement climatique. Un président américain, quand même, élu, a été élu malgré ça, bien qu'il ait pu déclarer quand même que le réchauffement climatique était une intox créée par et pour les Chinois. Voilà, ça va quand même très loin, le conspirationnisme contemporain. Donc, mais je crois que fondamentalement, le complotisme, pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, il met de la maîtrise, en tout cas, il donne l'illusion d'une maîtrise sur quelque chose qui est absolument immaîtrisable. Souvent, je me fais cette réflexion quand on... face à un phénomène comme celui de la mondialisation, qui est un phénomène, si vous voulez, un peu homéostatique, quoi. Vous voyez, il y a pas de pilote dans l'avion, personne pilote ça, dirige ça. Il y a des instances de concertation internationale, le G7, le G20, où on essaie de mettre de la régulation, mais ça marche pas si bien au final. Donc il y a pas de pilote dans l'avion. Mais l'idée du complot mondial, Illuminati, sioniste, reptilien, ce qu'on veut, met un pilote dans l'avion quand même. Voilà. Et quelque part, c'est rassurant. On se dit, bon, finalement, on sait où on va quand même.
Quelqu'un contrôle.
Quelqu'un sait où on va.
Mais voilà. Sauf qu'on ne sait pas qui c'est. Mais quelqu'un contrôle.
C'est ça.
Rudi Reichstadt, vous écrivez dans un de vos textes, la montée en puissance d'Internet a considérablement changé la donne. Internet s'est en effet accompagné d'une propagation inédite du conspirationnisme dans le débat public, s'imposant au cours des 15 dernières années comme un contre-espace public, nimbé de la légitimité de la vox populi et se définissant en rupture avec les médias traditionnels. C'est quoi cette idée d'un contre-espace public, Internet comme contre-espace public, alors que ça avait été vendu comme un espace démocratique, libéral
Écoutez, je parle de contre-espace public parce que, si vous voulez, dans l'espace public légitime, on va dire celui de la presse traditionnelle, classique, le rapport de force, il est évidemment en faveur des anti-complotistes. Vous voyez, les initiatives de fact-checking, du Monde, de Libération. En revanche, sur Internet, ces choses-là sont inversées. C'est-à-dire que ils ne sont sans doute pas plus nombreux, les internautes complotistes, mais ils sont en revanche beaucoup plus actifs. Ils font beaucoup plus de bruit. Et par conséquent, ils saturent Internet, ou en tout cas, ils colonisent ce continent vierge qu'est Internet, ce continent cognitif, informationnel, de leur thèse, tout simplement parce qu'ils sont plus motivés que les autres, que les indifférents, pour produire des choses autour de ça. Et évidemment, Internet fournit une prime au complotisme, à la croyance en général, mais à la croyance complotiste en particulier. Pourquoi ? Parce que, mais tout simplement, d'abord, il donne un écho supérieur aux plus motivés. C'est le Far West, hein, c'est la loi du plus fort. Mais aussi parce que quand, dans les années 80 ou 90, moi j'ai grandi dans ces années-là, vous vous intéressiez au trésor des Templiers, par exemple, vous pouviez trouver à la bibliothèque du coin ou en librairie des ouvrages sur le sujet, mais bon, voilà, ça s'arrêtait là. C'était compliqué de creuser. Aujourd'hui, non seulement vous allez trouver... alors 100 fois plus de données, enfin de contenu sur Internet en un clic, de manière complètement instantanée, mais en plus, vous allez trouver des gens qui pensent comme vous, qui sont passionnés comme vous, et vous allez faire immédiatement communauté. Là où 15-20 ans en arrière, vous auriez été peut-être découragé dans votre quête ésotérique, vous allez être aujourd'hui complètement galvanisé et enfermé dans une forme de bulle de filtre. Et là, ce qu'on appelle le biais de confirmation.
Alors, il faut qu'on en dise un mot. Qu'est-ce que c'est que ce biais de confirmation, notamment quand on va chercher une information sur Internet ?
En deux mots, ça signifie que sur Internet, vous trouvez ce que vous allez chercher. Voilà. Si vous voulez trouver l'explication complotiste de n'importe quel événement, vous tapez le nom de l'événement, le mot complot à côté, et vous êtes à peu près certain de trouver un contenu qui répondra à vos attentes.
Donc ça va vous confirmer dans votre démarche initiale ou dans votre doute initial
qui
ne sera pas levé.
Absolument. Absolument. Ça va nourrir votre soupçon parce que on va vous apporter sur un plateau des arguments, et plusieurs arguments en plus. Hein. Gérald Brunner parle de millefeuille argumentatif. C'est-à-dire qu'on va remettre en cause la version communément acceptée des faits, la version stigmatisée comme officielle, en présentant comme ça un ensemble d'arguments mis bout à bout, et des arguments parfois empruntés à des champs très, 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 très diversifiés, très variés de la connaissance, qui fait que vous ne pouvez pas avoir les compétences suffisantes pour les démonter a priori chacun d'entre eux, hein. Et par conséquent ça va produire sur vous un effet d'intimidation très très fort qui fait que vous allez vous dire bah tout ne peut pas être faux, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, et mission accomplie, puisque l'intérêt du conspirationnisme politique, c'est évidemment d'instiller le doute.
Raphaël Josset, vous parlez dans votre ouvrage, si on reste sur cette question d'Internet, des conspirationnistes numériques. Alors c'est un peu, voilà, c'est un peu les conspirationnistes du moment, les conspirationnistes 2.0. Qui sont ces gens? Ce sont tous ces gens qui vont proposer des montages vidéo, qui vont spéculer, qui vont démonter l'information pour montrer que tout ça est manipulé. Donc ceux sur lesquels on va tomber avec ce fameux biais de confirmation, c'est ça les conspirationnistes numériques, Raphaël Josset?
Oui, j'imagine que je faisais référence à ça au moment où j'ai écrit ça. Je crois que vous faites référence au passage où je parle de l'émergence au début des années 2000 de cette nouvelle génération de conspirationnistes numériques. Voilà. C'est au moment de l'avènement du web 2.0 en fait. Hein. C'est au moment
le
où il y a cette technologie
qui
arrive au milieu des années 2000. Avec YouTube, les plateformes, etc. Ça existait déjà un petit peu avec les blogs, mais avec ce web qui est basé sur le principe du contenu généré par les utilisateurs. Ça a été une révolution. On parlait du web 2.0 à tire l'arigot. Maintenant, enfin, c'est l'expression 2.0. Ouais, on l'utilise systématiquement, maintenant, tout le temps. Pour parler d'une nouvelle génération numérique. Et donc, c'était ça aussi, le déferlement qui a largement contribué au développement de ce qu'on parlait tout à l'heure, de ce nouveau... cette nouvelle tendance. Mais pour qu'il y ait ça, pour que ça prenne, il faut qu'il y ait une disposition mentale aussi. Parce que on peut tenir un discours, on peut avoir les dispositifs techniques pour le faire. Mais pour que ça prenne, à un moment donné, faut qu'il y ait des gens qui adhèrent. Il faut qu'il y ait quelque chose qui colle complètement à ce discours-là, quelque chose qui mentalement dans nos processus cognitifs à ce moment-là. Donc moi, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose de quand même lié à l'époque. Est lié à, en même temps, cette virtualité. C'est-à-dire que les réseaux permettent la diffusion large de contenus alternatifs, entre guillemets, et en même temps à la vitesse de la lumière, quoi. Hein, donc ça circule très vite, donc il y a cet effet-là. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on se plonge dans les écrans, on se plonge dans l'image, on se plonge dans le virtuel. Et c'est cette virtualisation du monde qui est aussi la cause de cette confusion entre le vrai, le faux, de l'avènement, on ne sait plus à quoi se fier. Et puis cet océan d'informations qui nous submerge. Et finalement, on cherche à retrouver du sens à travers un récit dont on dit qu'ils avaient disparu, que c'était le symptôme de l'avènement de la condition postmoderne, comme disait Jean-François Lyotard. Je pense qu'on a toujours besoin de se raccrocher à quelque chose, avoir des repères, avoir des récits, du sens et de la transcendance aussi. Hein, c'est un retour de un récit qui remet de la verticalité aussi, de la transcendance comme ça, divine, de la verticalité dans un monde qui de plus en plus justement horizontal, fluctuant, flottant, et de plus en plus spectral.
On va écouter un extrait d'un documentaire, extrait qu'il faut un tout petit peu resituer. C'est un extrait d'un documentaire fait par Conspi Hunter, qui est un site anti-conspirationniste. Et ce site va fabriquer en 2016 un faux documentaire conspirationniste signé d'un réalisateur virtuel qui s'appelle Lionel Perrotin et qui va défendre l'idée que les États-Unis auraient implanté le sida à Cuba puis en Afrique pour voir comment ce faux film va circuler sur les réseaux sociaux et éventuellement être repris sans ménagement et sans critique par les réseaux conspirationnistes même. Mais effectivement, c'est ce qui va se passer au-delà de leurs espérances. On écoute.
Pour pousser l'expérience un peu plus loin, nous allons écrire à un producteur de contenu conspirationniste. Mais si, vous vous souvenez, la troisième catégorie. Ce sera le site Réseau International, un poids lourd de la complosphère, consulté tous les mois par 1 million de personnes. Il s'agit pour nous de voir si les producteurs conspi sont eux aussi capables de tomber dans le piège.
Bonjour à vous. Je n'ai pas l'habitude d'ennuyer mes contacts avec un message privé, mais je me permets de vous faire suivre le premier film que j'ai fait.
Une semaine après la mise en ligne, nous faisons un premier point avec nos spécialistes de l'audience. Premier constat, l'opération de viralisation de la vidéo a bien démarré.
on voit bien que sur le Facebook de Lionel Perrotin, il n'y a pas tant de vues que ça. Ce qui prouve que la vidéo a été partagée et regardée sur d'autres comptes que celui de Lionel Perrotin. Et c'est là où on voit la stratégie, la mécanique des réseaux sociaux qui fonctionne pour les contenus conspirationnistes. On voit la transformation de Lionel Perrotin qui est en train de se faire récupérer par des sources et qui est en train de se faire récupérer par des recruteurs.
Et alors que nous regardons les chiffres, le nombre de vues sur YouTube s'emballe. 250 clics en une heure à peine, contre 400 les 6 jours précédents. Que s'est-il passé? Le site Réseau International vient de répondre à Lionel. Et voilà ce qu'ils lui disent.
Je viens d'écrire un petit billet autour de votre film. Je viens de le publier. Bravo pour ce magnifique travail. J'espère que cela contribuera à le faire connaître cordialement. On est en une de Réseau International. Avec cette image, on accroche le petit texte. Et il y a déjà 4 commentaires. Et donc en 2 heures, on a déjà 154 partages de la vidéo sur Facebook. Je crois que ça a pris.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Emmanuel Taïeb.
Nous sommes en compagnie de Raphaël Jossé et Rudy Reichstadt. C'était donc un extrait de Conspiranter, qui est un module du site Spicy, qui est un site notamment anticonspirationniste, et l'extrait était daté de 2015. Rudy Reichstadt, un mot sur ce qu'on vient d'entendre.
Oui, parce que j'ai participé à cette initiative. Donc il s'agissait de faire d'abord une fausse vidéo complotiste, de la faire buzzer sur Internet, de la retirer ensuite, et puis de mettre le contrepoison, qui est en fait le making-of de cette vidéo, qui dure beaucoup plus longtemps, et le projeter auprès des élèves. La vidéo d'ailleurs a été, je signale, elle a été rachetée par Canopée, donc par l'Éducation nationale. Elle est visible, elle est accessible directement gratuitement.
Donc c'est devenu un outil pédagogique.
Donc c'est devenu un outil pédagogique, c'était conçu comme ça au départ. L'idée était simple, c'était de dire, on va écrire un scénario complotiste, on va en faire une vidéo, on va trouver sur Internet ce qui nous permet de nourrir cette théorie du complot, qui explique en gros que le sida a été créé par la CIA et implanté délibérément sur Cuba, et ça expliquerait le blocus autour de Cuba, enfin voilà. Et ça, on s'est aperçu que ça avait pris et que ça avait été repris sur 2 plateformes conspirationnistes assez influentes, c'est-à-dire des sites qui sont dans le top 10 des sites conspirationnistes les plus fréquentés en langue française. Donc c'est pas rien quand même. Et ça a été repris comme si c'était un travail sérieux et de manière complètement acritique. Ce qui permet quand même de souligner aussi là vraiment l'asymétrie cognitive, si vous voulez, du complotisme. On a coutume de dire que les complotistes sont ceux qui doutent de tout, qui remettent toujours tout en cause. Mais c'est pas tout à fait exact en fait. En fait, ils ont un doute très très sélectif, très à géométrie variable. Ils doutent de tout ce qui peut nuire, en tout cas remettre en cause ce qu'ils appellent la version officielle, mais ils acceptent le plus souvent sans critique et avec beaucoup de crédulité tout ce qui va dans le sens de la théorie du complot. Voilà, ce qui pose quand même un problème.
C'est-à-dire que là, en fait, ils ont repris ce film sans du tout le vérifier, parce qu'au fond, ça allait dans leur sens, même si c'était un scoop, entre guillemets, qui était proposé par le film, ce qui montre visiblement qu'ils reprennent ce qui est de l'ordre de ce dont on parlait, la destruction du système ou la dénonciation anti-impérialiste ou anti-américaine, sans aucune vérification de rigueur sur ce type d'objet.
C'est exactement ça, mais ça conforte leur représentation initiale. Et c'est ça fondamentalement qu'il faut comprendre avec le complotisme.
Raphaël Jossé, la nouveauté très forte du conspirationnisme 2.0, c'est la viralité, c'est-à-dire cette capacité d'utiliser la société en réseau, les réseaux sociaux, les réseaux Internet, pour se diffuser massivement et sortir d'une forme de marginalité dont Rudy Reichstadt parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le petit éditeur de quartier un peu bizarre. Et là, il y a une explosion via la viralité. Vous diriez que c'est ça le fondement de la force du conspirationnisme 2.0?
J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est à la fois ça, mais ça ne marche pas sans disposition mentale liée à des conditions objectives d'une époque qui font qu'il y a des gens qui sont réceptifs à ce genre de discours, à ce genre de virus là, ce genre de virus mental. Voilà, donc on voit bien qu'il se diffuse depuis deux siècles, c'est exactement le même discours. On peut remonter à la Révolution française, à Barruel, hein, donc Augustin Barruel. Voilà, le discours sur les Illuminati, il est là, il est déjà là, il existe depuis deux siècles, ça se diffuse comme ça.
Avec
voilà,
l'imprimé,
donc là,
déjà,
il y a un nouveau média, un nouveau dispositif qui fait que bon, bah, ça se diffuse planétairement, comme ça, très rapidement. Voilà, et en même temps, comme je disais, il faut penser peut-être à la formule de McLuhan, comme quoi le médium est le message aussi, au-delà du contenu. Donc il y a la forme, le dispositif, le canal qu'on utilise, et aussi peut-être le message premier et fondamental, parce qu'il nous parle de notre façon d'être au monde, et comment il bouleverse nos manières de nous rapporter à l'espace et au temps. Et donc ça joue fondamentalement sur nos conditions, notre condition humaine, post-humaine bientôt, voilà, on parle de ça, donc je pense que ça rentre aussi là-dedans. Donc il y a de nouveaux processus cognitifs qui sont liés à ça, voilà. Mais après, on revient sur des choses très, très fondamentales, très, très archaïques, qui sont simplement le retour à une forme de pensée paranoïaque, biaisée. Voilà, alors j'aime bien le mot paranoïa, si on ne prend pas juste dans le sens de persécution, enfin de sentiment de persécution, mais dit quelque chose de para. Noia, hein. La noia, c'est l'esprit, la pensée, voilà, donc parallèle, quoi. Donc c'est un mode de pensée parallèle. Donc je me demande toujours comment ça se fait. Alors moi j'ai des amis comme ça aussi, quoi, qui sont en recherche de théories critiques. Comment ça se fait qu'ils vont toujours chercher quelque chose qui ressemble à une théorie critique, qui l'est, mais c'est toujours un petit peu biaisé, quoi. Enfin, c'est, en tout cas, moi, c'est un genre de valeur, hein, mais ça me paraît toujours. Mais pourquoi ils vont. Voilà, toujours. Voilà, c'est difficile à expliquer aux gens que leur mode de pensée à eux c'est pas le bon. Donc ça c'est, on est sur quelque chose qui c'est une vérité parmi d'autres, hein, de toute façon, quoi. Donc tout ce qu'on peut faire pour, puisqu'à un moment donné on va arriver à la fin de l'émission là, et tout ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est effectivement avoir éventuellement une démarche pédagogique, expliquer aux gens, montrer, faire des documentaires, des choses comme ça. Je l'ai vu. Il est intéressant. J'ai eu l'occasion de dire directement à Thomas Huchon que ce qui me posait.
L'animateur du site Spicy,
qui est directement donc quasiment l'auteur du
réalisateur
du documentaire. Que ce qui me posait problème, moi, par rapport à ce documentaire-là, bon, c'est qu'il y avait encore le côté montage un peu spectaculaire et sensationnaliste, et en même temps la domination conspi hunter, hein, chasseur de conspi. Je ne pense pas, comme je le disais en début d'émission, je ne pense pas que ça soit la bonne démarche, parce que les gens qui sont considérés comme conspirationnistes par d'autres vont s'enfermer dans ce rôle-là et vont être dans une posture de défiance et de dénégation, et donc voilà. Donc en fait on ne fait que renforcer les gens dans leur position, voilà. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses à faire aussi, hein. Il y a un traitement de fond sur la crise civilisationnelle, la crise existentielle, spirituelle, donc voilà, c'est pas juste avec des arguments rationnels qu'on va réussir à montrer aux gens qui pensent voilà que c'est pas...
Surtout si la défiance est forte. Rudy, un mot et on écoutera un autre extrait.
Oui, sur le conspirationnisme 2.0 ou numérique, comme on l'appelle, je crois qu'il ne faudrait pas commettre l'erreur de penser qu'il y a une barrière étanche entre ce qui se passe sur Internet et ce qui se passe dans le reste de la société. J'ai évidemment qu'il y a des allers-retours entre les deux permanents, et qu'en fait les utilisateurs, les internautes sont des gens en chair et en os derrière leur écran d'ordinateur, et qu'ils se nourrissent de ces choses-là aussi, et que ça a un impact direct sur notre société politique. On l'a vu aux États-Unis avec les dernières élections américaines, où le vainqueur quand même a fait un usage immodéré et assez largement irresponsable des théories du complot. Je ne dis pas que ça a présidé à son élection, mais en tout cas, ça n'a pas empêché d'être élu. Et en France, on a assisté à une forme de trumpisation de cette campagne présidentielle qui est absolument inédite. Lorsque vous avez des mots comme oligarchie, on est sur fréquence protestante, mais Charles Maurras... le fondateur de l'Action française,
royaliste,
monarchisme intégral, parlait des, vous savez, des quatre États confédérés, parlait des quatre oligarchies. Les quatre oligarchies, c'était les protestants, les francs-maçons, les métèques et les juifs. Et il parlait assez fréquemment d'oligarchie. Dans les années 30, l'extrême droite parlait, pas seulement l'extrême droite, d'oligarchie, et de voir que ce vocable a réinvesti notre lexique politique immédiatement contemporain. Et est aussi une source d'inquiétude de voir que aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen l'utilisent, que des sociologues comme les époux Pinson-Charlot parlent de complot oligarchique, par exemple, ça va assez loin. C'est une source d'inquiétude. Alors là, je ne sais pas si on est, parce que effectivement, c'est l'ère post-idéologique, les grandes structures, les grands récits des religions séculières, le marxisme en particulier, se sont effondrés. On raisonnait pas dans le marxisme en termes d'oligarchie, de puissance. D'un côté d'élite financière ou que sais-je, et de l'autre les petits, les opprimés, on parlait quand même avec des enfin, en tout cas le langage était celui de la bourgeoisie, du prolétariat, enfin de dialectique de classe. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une forme de il y a quelque chose de régressif en fait dans ce conspirationnisme contemporain.
Il y a une forme d'explication, c'est ce qu'on disait, un peu rapide, mais alors il y a aussi, on l'a vu lors de la dernière campagne aux États-Unis et en France dans une moindre mesure, une explosion, alors on est un peu à côté du conspirationnisme là, mais une explosion de ce qu'on appelle le trolling politique, c'est-à-dire l'occupation des réseaux sociaux en envoyant plein d'informations plus ou moins vérifiées, voire complètement fausses, une explosion des fake news, et on se rend compte que les médias traditionnels ou les médias professionnels ont énormément de mal à désintoxiquer ou à lutter contre ces éléments-là. Comment vous l'expliquez ? C'est finalement le triomphe de l'idéologie sur la véracité de l'information ? Comment vous voyez les choses sur cette question des fake news ? Il y a une demande de réalité alternative que les fake news viennent combler ? Qui voudrait répondre, Rudi Reichstadt ?
Mais moi, je crois que on commettrait une erreur en pensant que en démocratie, on vote en faveur du discours le plus vrai, c'est-à-dire le plus conforme à la réalité des faits. On vote par conviction et souvent au nom d'une vérité supposée supérieure, surplombante. Voilà. À la rigueur, le fait que Donald Trump ou Marine Le Pen ou d'autres ne disent pas des choses dans leur discours qui soient absolument conformes à la réalité des faits est presque secondaire. L'important, quand on est un électeur de Marine Le Pen, par exemple, c'est qu'on soit d'accord avec ce qu'elle dit sur l'immigration et qu'on la crédite d'une volonté réelle de régler ce problème-là, ou d'en découdre, en tout cas. Pareil avec Trump. C'est quand même frappant parce que aussi bien Trump que Marine Le Pen, lorsqu'on s'intéresse à leurs électeurs, on s'aperçoit qu'ils les créditent chacun de parler vrai. On dit oui, mais tiens, un discours de vérité. Eux parlent vrai. Alors que par ailleurs, et pour Trump, la démonstration a été faite, pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, 70% des phrases que Donald Trump a pu prononcer étaient au minimum à demi-vrai, et au pire, complètement fausse, quoi. Je veux dire, ça a été fact-checké. Donc vérifié. Voilà. Mais apparemment, c'est pas ce qui compte. C'est pas ce qui compte pour ses électeurs.
Il y a une espèce, pour revenir sur cette question-là de la production d'infos, il y a l'impression que désormais, chaque individu peut spéculer chez lui, sur le réel. On a des vidéos qui circulent où des gens filment leur télévision et disent « là, on nous dit n'importe quoi, là, c'est faux ». Comment vous expliquez, Raphaël et José, ce besoin de spéculer ? Il faut réexpliquer le monde, mais alors chacun est devenu producteur d'une interprétation du monde ?
Oui, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est devenu hyper politisé d'un seul coup. Avant, on avait un peu de mal à parler politique, ou je sais pas, parce que j'étais plus jeune, à 20 ans, peut-être que les gens autour de moi n'avaient pas trop envie de parler. Et puis maintenant, j'ai l'impression que c'est partout. D'un seul coup, tout le monde
se met, ouais, une position
très tranché, très dur et tout. Bon, je sais pas. Les gens se sentent floués. Il y a à la fois, je crois qu'ils sont tellement baignés, on est tellement baignés dans cette information qu'on ne sait pas si elle est vraie ou si elle est fausse. Tout est un peu de façon fake, hein, d'une manière générale. Donc après, oui, des fois on peut vérifier des choses, mais il y a la façon dont on enveloppe cette vérité, dans la façon dont on raconte les choses. On voit pas là, alors les auditeurs vont pas dans les trucs, mais ils peuvent imaginer que la bouteille là, voilà, bouteille, donc, nous, ouais, on la voit de façon différente, chacun de nous, et donc on a un point de vue différent. différents sur la chose. Pourtant, elle est là, elle existe, mais on pourrait la représenter, la décrire d'une manière différente chacun de nous. Donc bon, ben voilà, tout est comme ça en fait. Donc rien n'est absolument vrai. En tout cas, c'est difficile d'en parler. Dans la représentation, dans le langage, on est toujours dans la représentation de toute façon. Et à partir de là, je sais pas. Il y a un besoin de spéculation, il y a un besoin de s'exprimer et souvent d'avoir de l'impact, de l'influence. Et c'est vrai que quand on dit des choses un peu sensationnelles et tranchées et polémiques, bon, ben ouais, ça fait réagir. Et donc après, les gens ont des retours comme ça, des stimulations aussi. Et ça, c'est bon, ça fait du bien.
La diffusion du conspirationnisme est devenue assez forte et les pouvoirs publics s'en sont saisis, notamment après les attentats de janvier 2015, en constatant que beaucoup de collégiens étaient finalement pétris de conspirationnisme et qu'ils s'abreuvaient aux sources alternatives dont on est en train de parler. Donc ça, c'est devenu un problème public. Est-ce que, pour rester sur l'inquiétude qu'on évoquait en début d'émission, Rudi Reichstadt, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour inverser la tendance? Enfin, comment on fait pour lutter contre la vague conspirationniste, surtout quand on est considéré comme étant quelqu'un qui incarnerait, pas vous individuellement, mais les médias, etc., le discours officiel, entre guillemets.
Oui, alors c'est très compliqué. Non, alors si on renonce, il y a plus qu'à tirer l'échelle. S'agissant des plus jeunes, j'espère que rien n'est joué quand même. On en revient, on joue avec ces choses-là aussi. Hein. L'adolescence, c'est l'âge aussi de la transgression. Donc on remet en cause évidemment toute parole d'autorité, la parole d'adulte en général. Donc rien n'est joué, je crois, à 15 ans. Et effectivement, vous avez raison de souligner que les pouvoirs publics s'en sont emparés. En tout cas, il y a une prise de conscience très nette et qu'on peut dater au mois de janvier 2015, c'est-à-dire vraiment dans le sillage des attentats de Charlie Hebdo, où là, l'éducation nationale et même le président de la République ont pris des positions très fortes pour la première fois, on parlait explicitement de conspirationnisme et l'ont désigné comme un problème public. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que justement, les médias classiques et l'État peuvent pas tout faire. C'est vraiment un problème qui traverse toute la société et c'est aussi à la société civile d'y répondre, à chacun, selon son domaine de compétence, d'essayer de collaborer ou d'apporter dans l'espace public son expertise pour essayer de démythifier ces choses-là, chacun à son niveau.
Créer des contre-feux dans l'espace public contre le contre-espace public. Cette émission s'achève. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence, Raphaël Jossé et Rudi Reichstadt. Raphaël Jossé, je rappelle le titre de votre ouvrage, Complosphère, l'esprit conspirationniste à l'ère des réseaux. C'est sorti chez Le Mieux Éditeur en 2015. Rudi Reichstadt, je donne l'adresse web de l'Observatoire du conspirationniste, www.conspiracywatch, donc c'est en anglais, .info, pour tout savoir sur le complotisme. Cette émission sera en podcast dans quelques jours sur le site de Fréquence Protestante. Merci à Boris à la technique. À très bientôt.